Sans complication majeure, les autres pièces de mon équipe de sécurité nationale se sont mises en place. Mon amie de longue date et ancienne diplomate Susan Rice comme ambassadrice auprès des Nations Unies, Léon Panetta, ancien représentant de la Californie au Congrès et directeur du cabinet de Clinton, a la réputation bien méritée de savoir dépasser les oppositions des partis comme patron de la CIA, et l'amiral à la retraite Dennis Blair comme directeur du renseignement national. Beaucoup de mes plus proches conseillers de campagne ont eu des postes clés dans mon équipe, y compris mon sergent-instructeur spécialiste des débats, Tom Donilon, comme conseiller adjoint à la sécurité nationale. Les jeunes cadors Denis McDonough, Mark Lippert et Ben Rhodes comme attachés à la sécurité nationale, et Samantha Power pour occuper au Conseil de sécurité nationale un poste nouvellement recentré sur la prévention des actes de barbarie et la promotion des droits fondamentaux. Il restait encore une nomination potentielle qui allait faire un peu de bruit. Je voulais que Hillary Clinton soit ma secrétaire d'État. Les observateurs ont mis en avant diverses théories pour expliquer la logique qui présidait au choix de Hillary. On a dit que j'avais besoin d'unifier un parti démocrate encore divisé, que je redoutais qu'elle ne me critique depuis son siège au Sénat, que j'avais été influencé par le livre de Doris Kearns Goodwin consacré à Lincoln, Team of Rivals, une équipe de rivaux, et que j'imitais délibérément Lincoln en plaçant une ancienne rivale au sein de mon gouvernement. En réalité, c'était plus simple que cela. J'estimais que Hillary était la personne qui correspondait le mieux au poste. Durant toute la campagne, j'avais observé son intelligence, son professionnalisme, sa déontologie. Indépendamment des sentiments qu'elle pouvait entretenir à mon égard, j'avais confiance en son patriotisme et en son sens du devoir. Plus que tout, j'étais persuadé qu'à une époque où les relations diplomatiques dans le monde étaient soit tendues, soit régulièrement négligées, avoir une secrétaire d'État avec l'aura de star de Hillary, son carnet d'adresses et son aisance sur la scène internationale, nous fournirait un supplément de bande passante que personne d'autre n'était en mesure d'apporter. Mais les blessures de la campagne étant encore fraîches, tout le monde dans mon camp n'était pas convaincu. « Tu es sûr de vouloir une secrétaire d'État qui a diffusé des spots affirmant que tu n'étais pas prêt à devenir commandant en chef ?» m'a demandé un ami. Il a fallu que je lui rappelle que celui qui serait bientôt mon vice-président avait dit la même chose. Hillary était méfiante, elle aussi. Et la première fois que je lui ai proposé le poste, lors d'un rendez-vous dans notre bureau de transition à Chicago, une dizaine de jours après l'élection, j'ai essuyé un refus poli. « Elle était fatiguée, m'a-t-elle expliqué. Il lui tardait de se fondre dans l'emploi du temps plus prévisible du Sénat. Elle avait encore une dette de campagne qu'il lui fallait rembourser. Et puis, il y avait Bill, dont elle devait tenir compte. Son action en faveur des pays en développement et de la santé publique à la Fondation Clinton avait fait avancer les choses. » Et Hillary et moi savions tous deux que la nécessité d'éviter ne fût-ce qu'un semblant de conflit d'intérêts, en particulier concernant les collectes de fonds, lui imposerait probablement à lui et à la Fondation de nouvelles contraintes. Les réserves qu'elle a formulées étaient recevables, mais je les considérais comme marginales. Je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir. Au cours de la semaine suivante, j'ai mis à contribution Podesta, Ram, Joe Biden, plusieurs de nos collègues au Sénat et tous ceux que je pouvais solliciter, pour qu'il parle à Hillary et tâche de la convaincre. En dépit de tous ses efforts, lorsque nous nous sommes reparlés au téléphone un soir, elle m'a dit qu'elle était tentée de décliner. De nouveau, j'ai insisté, persuadé que les doutes qu'elle nourrissait encore étaient moins liés à la nature du poste qu'à notre relation potentielle. J'ai obtenu d'elle qu'elle me fasse part de son point de vue sur l'Irak, la Corée du Nord, la prolifération nucléaire et les droits fondamentaux. Je lui ai demandé comment elle revitaliserait le département d'État. Je lui ai garanti qu'elle pourrait toujours s'adresser à moi directement et qu'elle aurait carte blanche pour constituer sa propre équipe. « Tu es trop importante à mes yeux pour que je puisse accepter une réponse négative », lui ai-je dit pour conclure notre conversation téléphonique. Le lendemain matin, Hillary avait décidé d'accepter mon offre et intégrer le gouvernement. Une semaine et demie plus tard, je les présentais, elle ainsi que le reste de mon équipe de sécurité nationale, aux côtés d'Eric Holder, que j'avais choisi pour prendre la tête du département de la justice, et de la gouverneure Janet Napolitano, que je nommais au département de la sécurité intérieure, lors d'une conférence de presse à Chicago. En regardant les hommes et les femmes réunis sur l'estrade, je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'ils étaient presque tous plus âgés que moi, possédaient des décennies d'expérience supplémentaire au plus haut niveau de l'État, et qu'au moins deux d'entre eux avaient à l'origine soutenu un autre candidat à la présidence, nullement ému par des considérations sur l'espoir et le changement. « Oui, une équipe de rivaux, après tout, me suis-je dit. » Je découvrirais bien assez tôt si cela indiquait une confiance légitime en ma capacité à gouverner, ou bien l'assurance naïve d'un novice sur le point de se faire rouler dans la farine. Quand George Washington fut élu président en 1789, Washington DC n'existait pas encore. Le président nouvellement élu dut entreprendre un périple de 7 jours en chaland et en bogey, tiré par des chevaux de chez lui à Mount Vernon en Virginie, jusqu'au Federal Hall de New York, le siège temporaire du nouveau gouvernement national, pour sa prestation de serment. Il fut acclamé par 10 000 personnes. Le serment présidentiel fut prêté, suivi des cris de la foule qui reprit en chœur « Longue vie à George Washington » et d'une salve de 13 coups de canon. Puis Washington prononça un discours inaugural sobre, adressé non pas au public, mais aux membres du Congrès, dans leur chambre de fortune mal éclairée. Il assista ensuite à un service religieux dans une église des environs. Après cela, le père de la nation fut libre de s'atteler à la tâche consistant à faire en sorte que l'Amérique perdure au-delà de son mandat. Avec le temps, les investitures devinrent plus élaborées. En 1809, la première dame Dolly Madison fut la marraine du premier bal inaugural dans la capitale nouvelle. 400 personnes se fendirent chacune de $4 pour avoir le privilège de participer à ce qui était alors la plus grande manifestation jamais organisée à Washington. Conformément à sa réputation de populiste, Andrew Jackson, pour son investiture en 1829, ouvrit les portes de la Maison-Blanche à plusieurs milliers de ses sympathisants. La foule ivre chahuta tant que Jackson, dit-on, dut s'échapper par une fenêtre. Pour sa seconde investiture, Teddy Roosevelt n'était pas satisfait des processions militaires et des fanfares. Il y ajouta une ribambelle de cow-boy et le chef Apache Geronimo. Et lorsque ce fut le tour de John F. Kennedy en 1961, l'investiture était devenue un show télévisé de plusieurs jours, avec des spectacles musicaux, une lecture du poète Robert Frost et plusieurs bals somptueux où les célébrités les plus en vue de Hollywood purent éblouir de glamour les financeurs et agents électoraux du nouveau président. Frank Sinatra, semble-t-il, ne ménagea pas ses efforts pour que les galas soient dignes de Camelot. Cependant, il fut obligé d'avoir une discussion qui dut être très embarrassante avec son ami et acolyte du Rat Pack, Sammy Davis Jr., lorsque le patriarche Joe Kennedy lui fit savoir que la présence de Davis et de sa très blanche épouse suédoise au gala d'investiture risquait de fortement déplaire aux sympathisants du Sud de JFK et était donc fortement déconseillé. Compte tenu de l'enthousiasme que notre campagne avait suscité, les gens attendaient beaucoup de mon investiture, prévue le 20 janvier 2009. Comme pour la convention démocrate, je n'ai pas trop eu à m'occuper des détails de l'organisation, certain que le comité que nous avions monté et la directrice de l'agenda de ma campagne, Alissa Mastromonaco, alors pressentie pour le poste de papesse de l'organisation, avait la situation bien en main. Et donc, pendant qu'étaient érigées des scènes et des gradins le long du trajet du défilé, Michel, les filles et moi sommes partis pour Noël à Hawaï, où, entre la finalisation des recrutements à mon cabinet, les consultations quotidiennes avec mon équipe économique et l'ébauche de mon discours d'investiture, je me suis efforcé de reprendre un peu mon souffle. Maya et moi avons passé un après-midi à fouiller dans les effets personnels de toutes. Puis nous avons marché jusqu'à l'affleurement rocheux près de Hanoma Bay, où nous avions dit un ultime adieu à notre mère et dispersé ses cendres dans l'océan. J'ai improvisé une partie de basket avec quelques coéquipiers du lycée. Nos familles ont repris des chants de Noël, préparé des gâteaux et inauguré ce qui deviendrait un concours de talent amateur annuel. Les papas ont fort justement été jugés comme étant les moins talentueux. J'ai même eu l'occasion de faire un peu de body surf à Sandy Beach, une des plages préférées de ma jeunesse. En prenant une vague qui se brisait en douceur, la lumière épousant la courbure de l'eau, le ciel rayé par le vol des oiseaux, j'ai pu un instant m'imaginer que je n'étais pas entouré de plusieurs membres des Navy Seals en combinaison de plongée, que la vedette des gardes-côtes, au loin, n'avait rien à voir avec moi, que des photos de moi torse nu ne finiraient pas en première page de journaux du monde entier avec des titres du style « apte au service ». Quand j'ai finalement signifié que j'étais prêt à sortir de l'eau, le chef de mon équipe de sécurité ce jour-là, Dave Beach, un agent sardonique qui me suivait depuis le début et que je considérais comme un ami, a penché la tête pour faire sortir l'eau de ses oreilles et a dit sur un ton détaché « J'espère que vous avez apprécié parce que vous ne remettrez pas ça avant un bout de temps ». J'ai ri, sachant qu'il plaisantait. Enfin, il plaisantait ou pas? La campagne et ce qui s'était passé immédiatement après ne m'avaient pas laissé le temps pour la réflexion. C'est donc uniquement durant ce bref interlude tropical que nous tous, la famille, les amis, les membres du staff, le secret de service, avons pu mesurer ce qui s'était produit et essayer d'envisager ce qui nous attendait. Tout le monde avait l'air heureux, mais légèrement hésitant, ne sachant pas si le moment était bien choisi pour évoquer l'étrangeté de tout cela, s'efforçant de saisir ce qui avait changé et ce qui n'avait pas changé. et elle avait beau ne pas le montrer, personne ne sentait ce flottement avec plus d'acuité que celle qui serait bientôt la First Lady des États-Unis. Au fil de la campagne, j'avais vu Michelle s'adapter avec une grâce infaillible à la situation nouvelle, charmant les électeurs, emportant le morceau en interview, peaufinant un style qui faisait d'elle quelqu'un d'à la fois chic et accessible. Il s'agissait moins d'une transformation que d'une amplification, sa michellitude fondamentale lustrée jusqu'à atteindre un véritable éclat. Mais si elle évoluait sous l'œil du public avec de plus en plus d'aisance, en coulisses, Michelle rêvait de pouvoir ménager une zone de normalité pour notre famille, un lieu hors d'atteinte des sphères déformantes de la politique et de la célébrité. Dans les semaines qui ont suivi l'élection, elle s'est donc lancée dans les tâches qui incombent à tout couple obligé de déménager pour cause de nouveaux boulots. Avec son efficacité légendaire, elle a trié, fait les valises, fermé des comptes. Elle s'est arrangée pour faire suivre notre courrier tout en aidant le centre hospitalier de l'Université de Chicago à préparer son remplacement. Ce qui comptait le plus à ses yeux, toutefois, c'était nos filles. Le lendemain de l'élection, elle avait déjà organisé une visite des écoles de Washington. Malia et Sacha avaient toutes deux d'emblée écarté les écoles de filles, optant plutôt pour Sidwell Friends, une école privée fondée par les Quakers que Chelsea Clinton avait fréquentée, et discuté avec les professeurs de leur arrivée en classe au milieu de l'année. Elle a demandé conseil à Hillary et à Laura Bush sur les façons de les protéger de la pression médiatique et cuisiner le Secret Service sur les moyens d'éviter que des agents de sécurité ne viennent déranger leurs après-midi de jeu ou interrompre les matchs de foot. Elle s'est familiarisée avec les obligations liées à la vie à la Maison-Blanche et a veillé à ce que le mobilier dans les chambres des filles n'ait pas l'air tout droit sorti de Monticello, le domaine de Thomas Jefferson. Je n'étais moi-même pas exempt de l'anxiété qu'éprouvait Michelle. Malia, et surtout Sacha, étaient tellement jeunes en 2008, avec leur queue de cheval et leurs tresses, leurs dents manquantes et leurs joues rondes. Comment la Maison-Blanche façonnerait-elle leur jeunesse? Les isolerait-elle? Deviendrait-elle lunatique ou estimerait-elle que tout leur était dû? Le soir, j'écoutais attentivement les infos que Michelle avait pu recueillir, puis je lui faisais part de mes réflexions. Sur telle ou telle question qui la préoccupait, soucieux de la rassurer, je faisais valoir qu'une remarque maussade ou une petite bêtise de la part d'une des deux filles ne traduisait pas nécessairement les premières conséquences de leur monde mis soudain sans dessus-dessous. Mais comme ça avait été le cas au cours des 10 dernières années, l'éducation des enfants reposait largement sur les épaules de Michelle. Et en voyant l'intensité avec laquelle le tourbillon du travail me happait, avant même que je prenne officiellement mes fonctions, en voyant sa propre carrière mise sur la touche, son cercle d'amis proches bientôt à des centaines de kilomètres, tandis qu'elle irait s'installer dans une ville où les motivations de tant de gens étaient nécessairement suspectes, la perspective de la solitude s'est abattue sur elle comme une nuée. Tout cela explique pourquoi Michelle a demandé à sa mère de venir habiter avec nous à la Maison-Blanche. Le simple fait que Marianne Robinson ait bien voulu l'envisager a été une surprise, car ma belle-mère était d'un naturel prudent, se satisfaisant de son travail régulier, de ses habitudes, du petit cercle de la famille et des amis qu'elle connaissait depuis des années. Elle habitait la même maison depuis les années 1960 et s'aventurait rarement en dehors de Chicago. Son unique extravagance était son voyage annuel de 3 jours à Las Vegas avec sa belle-sœur Yvonne et Mama Kay pour jouer aux machines à sous. Elle avait beau adorer ses petits-enfants et avoir accepté de prendre une retraite anticipée pour aider Michelle à s'occuper des filles à partir du moment où la campagne avait commencé à s'intensifier, elle avait toujours mis un point d'honneur à ne pas s'éterniser dans notre maison de Chicago, ni à rester dîner une fois son travail accompli. « Je ne serai pas une de ces vieilles dames qui ne veulent pas laisser leurs enfants tranquilles », avait-elle dit en râlant. « Tout ça parce qu'elles n'ont rien de mieux à faire. » Et pourtant, quand Michelle lui a demandé de s'installer avec nous à Washington, Marianne n'a pas opposé une grande résistance. Elle savait que sa fille ne le lui aurait pas demandé si cela n'avait pas été très important. Il y avait l'aspect pratique, bien sûr. Pendant nos premières années à la Maison-Blanche, c'est Marianne qui accompagnerait Malia et Sacha à l'école tous les matins et leur tiendrait compagnie après la classe si Michelle était encore au travail. Mais c'était plus que cela. Ce qui a été vraiment important, et qui le demeurerait encore longtemps après, quand les filles seraient assez grandes pour ne plus avoir besoin de babysitter, c'est que la simple présence de Marianne a permis à notre famille de garder les pieds sur terre. Ma belle-mère ne se comportait pas comme quelqu'un se croyant supérieur aux autres, si bien que les filles n'ont jamais considéré que c'était une attitude envisageable. La doctrine qui gouvernait sa vie se résumait dans la formule « pas de tapage, pas de drame » et aucune forme d'opulence ni de battage médiatique ne l'impressionnait. Lorsque Michelle revenait d'une séance photo ou d'un dîner chic, où chacun de ses mouvements avait été examiné, sa coiffure scrutée par les médias, elle pouvait enlever sa robe de soirée, enfiler un jean et un t-shirt, et savoir que sa mère était là-haut, au dernier étage de la Maison Blanche, toujours disposée à regarder la télé avec elle, à parler des filles ou de la famille restée à Chicago, ou de rien de spécial. Ma belle-mère ne se plaignait jamais. Chaque fois que j'interagissais avec elle, je me rappelais que, quel que soit le genre de pétrin dans lequel j'étais, personne ne m'avait obligé à devenir président, alors je n'avais qu'à encaisser et à faire mon boulot. Ma belle-mère a été une vraie bénédiction. Par sa simple présence, elle nous rappelait qui nous étions et d'où nous venions. Elle était garante de valeurs que nous avions jadis considérées comme ordinaires, mais dont nous apprenions qu'elles étaient plus rares que nous ne l'avions imaginées.